J'ai intitulé ce message, c'était un message que j'avais fait, une petite courte série que j'avais fait à un week-end de ski, qui s'appelle « Rencontre du troisième type ». Je ne sais pas si vous avez vu le film. Jésus-Christ, c'est quelqu'un de particulier. N'avez-vous jamais passé un super dimanche après-midi avec vos amis ? À jouer, à passer du temps, à discuter. Vous avez passé un bon temps et vous auriez aimé que ces moments durent encore plus longtemps. Mais le moment est venu de rentrer chez vous. Combien de fois, quand j'étais lycéen, c'était vraiment sympa d'aller passer du temps avec un de mes voisins. Par contre, le retour chez moi était toujours difficile. Il fallait que je me prépare pour la semaine à venir. La joie était éphémère. Et elle était remplacée par un sentiment vague d'amertume, déception. Je devais aller au lycée comme d'habitude, sans trop savoir pourquoi, je ressentais comme une inutilité à cela. C'était la routine. Il fallait bien y faire. Il fallait bien s'y faire. Quand je discute avec mes collègues, c'est souvent la même chose. Le lundi, c'est un jour difficile pour tous. Les bons moments sont terminés et la routine reprend ses droits. J'ai comme l'impression que la joie éphémère, prodiguée par quelques instants de bonheur, n'arrive jamais à se sortir de la routine quotidienne. En gros, la vie n'a pas réellement de sens, mais je suis avec. Ce matin, j'aimerais discuter avec vous du sens de la vie, du vrai sens, celui qui vous poussera par-delà les vents et les marées de la vie, par-delà la souffrance, la mort, la haine, la maladie et la perte même de l'amour, l'injustice. Pour cela, je vous invite à une rencontre inattendue entre un certain Nicodème et un certain Jésus. Jean 3. Alors, ça sera, je veux dire, le passage dans sa totalité, c'est Jean 3, 1 à 21. Jean 3, 1 à 21. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau ou d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de quiconque qui est né de l'esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il advenir ? » Jésus lui répondit, « C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque mette sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière, Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en lui. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Pour situer rapidement la scène, Jean nous relate différentes rencontres avec Jésus. Jésus a commencé à faire des miracles, comme changer l'eau en vin et guérir des infirmes et bien d'autres choses. Jésus crée évidemment des attroupements autour de lui. La foule en redemande. Les gens sont même à croire en Jésus à cause de tout ce qu'il fait. C'est la suite du passage qui nous le dit. Mais ces mouvements de foule inquiètent les autorités religieuses locales. Et ce Jésus est inquiétant. Nicodème décide donc d'aller rencontrer ce Jésus. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Nicodème, un chef des Juifs et pharisien, vient à la rencontre de Jésus. Il faisait donc partie de l'élite et du pouvoir en place à l'époque. Il était imbibé de la religion puisqu'il connaissait l'Ancien Testament, toute la première partie de la Bible. Il faisait également partie du groupement qui se faisait appeler les pharisiens. Il avait la soif de se rapprocher de Dieu, mais cela était devenu impossible. Pour satisfaire Dieu, il fallait accomplir à la lettre des centaines de commandements. Un truc de fou. Il est donc l'incarnation de la religion. Il vint de nuit auprès de Jésus, nous dit le texte, et lui dit, « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Pourtant, sa vie ne semble pas être comblée. La religion ne semble pas avoir comblé sa vie. C'est pour cela qu'il vient voir Jésus, car ce Jésus a l'air d'avoir une puissance. Et cette puissance, nous dit-il, vient peut-être de Dieu. Malgré tous ses rites, toute la tradition et toute la religion, Nicodème ne semble pas avoir trouvé la paix et un sens à son existence. Son Dieu semble être très lointain et un peu exigeant. Ce matin, je ne vous dis pas de réfléchir à la religion. Non, la religion n'a rien donné à Nicodème. Elle ne pourra rien vous donner de plus que ce qu'elle a donné à Nicodème, à savoir un grand vide. La religion n'est donc qu'une immense supercherie qui fait croire à une connaissance de Dieu, mais qui en fait n'aboutit qu'à une incompréhension profonde. Non, ce matin, je ne vous dis pas de rechercher un sens à votre vie dans une religion, car c'est sûr, vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, Nicodème n'y est pas arrivé. Pourquoi vous ? La religion n'est donc pas le moyen pour connaître le sens à notre vie. Hervé Bazin, un écrivain que vous connaissez peut-être pour le fameux Vipère au poing, a un jour écrit « Le Dieu des religions est mort ». Nicodème était quelqu'un de très intelligent, sans doute un scientifique de l'époque. Sa connaissance des écrits de sa religion juive faisait de lui une personne qui était instruite. Pourtant, quand Jésus lui dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu », Nicodème reste perplexe, voire complètement abruti. Pour un savant, il est complètement sur le carreau. Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Toute sa connaissance semble buter sur ce que Jésus lui dit. Sa connaissance ne lui a pas permis de donner un sens à son existence. Einstein, un jour, écrira « La science m'a montré l'existence d'un Dieu, mais ne me l'a pas fait connaître. » La science ne peut pas grand-chose pour nous dans cette quête de sens. Tout simplement, elle n'est pas portée sur le même but. La science répond au « comment ?» mais nous laisse sans réponse devant le pourquoi. Dans un camp de vacances, j'avais fait une partie de ping-pong, il n'y avait plus de raquettes, alors j'avais joué avec une pine de pain. J'ai lamentablement perdu. Essayer de jouer au ping-pong avec une pine de pain, c'est comme essayer de chercher un sens à la vie par la science. C'est pas fait pour ça. Mais Nicodème était sans doute riche, car nous voyons plus tard qu'il apportera sa contribution pour embaumer le corps de Jésus, Jean 19, 39. Nicodème devait pouvoir se faire plaisir dans beaucoup de domaines. Pourtant, cela n'a pas donné un sens à sa vie. Pourquoi tant de stars du showbiz qui semblent avoir tout de l'enviable se suicident-elles, comme Dalida, par exemple, et bien d'autres? Tout semble leur réussir. Ils semblent avoir le bonheur, la joie. L'argent, le pognon, le flou, c'est cool, mais ça ne donne pas un sens à notre vie. J'aimerais vous raconter une histoire vraie de cet homme, Charlie. Charlie était marié, il avait de nombreux succès professionnels. En tant que pionnier dans son domaine, il avait acquis une solide réputation et comptait beaucoup d'admirateurs. Sur le plan financier, il cumulait les réussites. Bref, il était adulé, envié, aimé par ceux qui le connaissaient. Sa vie tout entière, à la maison comme au bureau, respirait la satisfaction, l'exploit et le pouvoir. Pourtant, un soir, Linda, son épouse, entendit un bruit soudain et terrible qui l'arracha à son sommeil. Il lui fallut quelque temps pour reprendre ses esprits quand tout à coup, elle regarda alors le lit et s'aperçut que son mari n'était plus à ses côtés. Elle se dirigea vers l'endroit d'où était venu le bruit et découvrit son mari affalé sur la table de la cuisine. Il était mort et tenait encore un papier dans sa main ouverte. Elle parcourut rapidement le mot que son mari avait griffonné, tandis que s'effondrait tout son univers. Depuis cette nuit, des milliers de questions hantent cette femme. Avant de se suicider, l'homme avait écrit une lettre qui commençait par ces mots. Certains succombent de mort naturelle, d'autres, incapables de faire face à la vie, décident de se supprimer. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous placer dans la même pensée que Nicodème. Nicodème ne pouvait imaginer que le hasard soit à l'origine du monde, car il était imbibé de la religion juive. Sa quête de sens et de recherche ne pouvait s'arrêter au simple fait que la vie est le fruit du hasard et qu'elle est une fatalité. Non, il avait la certitude que Dieu existait. Mais il n'avait jamais fait l'expérience de sa rencontre. Qu'en est-il aujourd'hui pour nous? Avons-nous un sens à notre vie qui va au-delà du simple bonheur momentané d'un dimanche après-midi de jeu avec vos amis ou d'une semaine de vacances? Je vous invite à suivre Nicodème dans sa recherche et à oser croire que le hasard n'est pas à l'origine de l'humanité, mais qu'un Dieu a désiré quelque chose de merveilleux pour nous, une vie merveilleuse. Pour vous inviter à continuer avec moi, j'aimerais vous laisser deux citations. Un ingénieur allemand spécialisé des fusées à la NASA a un jour écrit « Mieux nous comprenons, la complexité de la structure atomique, la nature de la vie ou de la recherche des galaxies, plus nous trouvons de raisons de nous émerveiller devant les splendeurs de la création divine. » Un grand biologiste a écrit « Essayer d'expliquer la genèse de la vie par le hasard, c'est admettre que lors d'une explosion, d'une imprimerie, il ait pu se former un dictionnaire tout seul. » La quête du sens de la vie nous a amenés vers Dieu. Mais Dieu n'est pas si facilement accessible. On le voit comme un grand barbu très lointain. Pourtant, Nicodème, qui est à la recherche de Dieu et de son royaume, ose la rencontre avec Jésus. Et si nous osions une rencontre avec Jésus, nous aussi, suivons Nicodème. Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque qui est né de l'esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il advenir ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ?» Nicodème semblait avoir des prédispositions pour connaître Dieu. Comme nous venons de le voir, il était imbibé de l'Ancien Testament, il connaissait les écrits des prophètes, il faisait partie des chefs des Juifs. Il se peut que peut-être il lui manque quelque chose pour connaître Dieu. Mais quoi? toute sa recherche est là. Il a peut-être raté une loi que Dieu a donnée, et c'est pour cela qu'il vient voir ce Jésus qui fait des miracles, un homme puissant qui peut venir peut-être de la part de Dieu. Nicodème est désireux de connaître ce royaume, de voir Dieu agir. Pourtant, Nicodème n'annonce pas clairement la question qui le préoccupe. Toutefois, Jésus a su discerner le souhait de son cœur. En vérité, verset 3, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème est chamboulé. Jésus a vu juste. Le souhait le plus profond de Nicodème est de voir Dieu afin de lui apporter un sens à sa vie. Jésus n'est pas un homme comme les autres, il connaît les pensées de nos cœurs et nos sentiments. Mais il n'est pas insensible devant la recherche de Nicodème. Mais il désire l'amener là où réellement une rencontre pourra avoir lieu. Le problème est dans le cœur même de Nicodème. Et cela nécessite une nouvelle naissance, nous dit le texte, une transformation. Le problème est dans le cœur même de Nicodème. Mais le cœur de Nicodème n'est pas caché devant Jésus. Jésus lui propose une autre transformation pour connaître Dieu. Qui n'a pas voulu un jour changer le monde, un jour dans sa vie? Combien de fois avec un de mes meilleurs potes, quand j'étais au lycée, on a essayé de changer le monde pour le rendre meilleur. Nous nous prêtons à rêver que cela pourrait être différent. Nous avons soif de voir du changement. Nous sommes comme Nicodème. Et cette même soif de voir du changement, nous essayons d'apporter à chaque fois notre remède, celui de changer le monde et aussi les autres. Pourtant, pour Jésus, le problème n'est pas chez les autres, mais chez nous. Mais de quelle autorité Jésus ose nous dire que nous devrions être transformés pour rencontrer Dieu? De quel droit peut-il nous servir cette salade? Verset 13, personne, verset 13, si vous n'avez pas la Bible, c'est en bas là. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus affirme être celui qui est monté au ciel et celui qui est descendu. En gros, le seul qui a fait l'aller-retour. Ces miracles ne sont pas la seule preuve de sa puissance divine. Nicodème a osé la rencontre avec Jésus. Nicodème croyait peut-être que Jésus allait lui parler de Dieu. Mais Nicodème n'a jamais cru que cela pourrait être Dieu lui-même. Oser la rencontre avec Jésus, c'est donc oser la rencontre avec Dieu lui-même. Combien de religions nous proposent des chemins pour rencontrer Dieu? L'une, la voie de l'éveil de la conscience. L'autre, la voie des bonnes œuvres. Pourtant, une seule prise de rendez-vous avec Dieu permet de le connaître réellement. Vous voyez une jolie femme ou un joli gars, ça dépend de quel côté on se place, dans la rue. Vous pouvez la regarder tout autant que vous voulez, mais si vous ne décidez pas à un moment donné de lui parler, vous n'aurez aucune chance de la connaître. C'est pareil pour Dieu. Vous pouvez croire que Dieu existe et que le monde n'est pas le fruit du hasard. Pourtant, si un jour vous ne faites pas une rencontre avec lui, vous ne pourrez jamais le connaître. Après avoir osé croire que le monde n'est pas le fruit du hasard, osez croire une rencontre avec Jésus. Lui seul est venu sur terre. Lui seul est Dieu venu sur terre. Mes femmes, c'est bien beau ce que tu es en train de me chanter là, mais aujourd'hui, si je veux rencontrer Jésus, comment je fais? Je lui téléphone pour voir s'il veut prendre un café? Une rencontre avec lui nous permet, nous dit le texte, d'entrer dans son royaume. Grosso modo, de vivre avec lui pour toujours. Vouloir le rencontrer, ça engage tout. Ça nécessite un changement complet, nous dit Jésus. En vérité, nous dit Jésus, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Pour rencontrer Jésus, nous devons être transformés par lui. C'est une rencontre qui exige beaucoup de nous. Car il exige de nous une transformation complète de notre façon de voir la vie et nous-mêmes. Vouloir changer le monde et notre président Sarkozy, ça c'était cool. Par contre, le débat que nous propose Jésus est beaucoup moins sympa. Jésus veut que nous soyons transformés, car nous sommes tous pourris. Lorsque j'étais dans ma classe, en école sup, j'avais un malin plaisir à descendre certaines de ma classe. Une fois, nous étions en train de revoir un point déjà abordé précédemment et une de mes collègues de notre classe, que je n'appréciais pas trop, demanda au prof des explications complémentaires. Et moi de dire à haute voix, mais franchement, nous l'avons déjà vu 5 fois. L'humilité n'était pas une caractéristique essentielle de ma nature. Et je dois avouer que j'étais pourri. Mon cœur était enclin à faire le mal. Or Dieu ne peut le supporter. J'avais besoin d'une rencontre avec Jésus pour qu'il transforme toute ma vie. Un auteur a écrit « La nature nous informe, l'école nous... la nature nous forme, l'école nous informe, la vie nous déforme, mais seul Jésus-Christ nous transforme. » Mais est-ce que nous avons besoin de cette transformation? Si vous êtes parfait, vous n'avez pas besoin de cette transformation. Et Jésus n'est pas venu pour les gens parfaits, il est juste venu pour les pourris comme moi. Si vous croyez ne pas avoir besoin, alors j'aimerais vous poser cette question. Si vous mourrez ce soir, je ne vous le souhaite pas, et que Dieu vous demande pourquoi il vous ferait entrer au ciel, que lui répondriez-vous? Si votre réponse était « j'ai été bon, je n'ai pas fait trop de mal », d'après vous, quelle serait sa réponse? Ou plutôt sa question? As-tu été transformé par Jésus? As-tu accepté la transformation proposée par lui? Mais Sam, tu me dis que tu as eu une rencontre avec Jésus, mais est-ce que tu ne serais pas en train de nous faire une petite bouffée de délire paranoïaque? Tu sais, celle qu'on fait quand on vient d'avoir fumé un peu de moquette. Mais Jésus dit à Nicodème quelque chose d'intéressant. Ne t'étonne pas, verset 7, de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de quiconque qui est né de l'esprit. Cette transformation est similaire au vent. On ne la voit pas. Quand vous parlez du vent, vous parlez d'un élément que vous n'avez jamais vu. Mais comment vous pouvez être assuré que le vent existe? Un fait tout simple a ses effets sur les maisons ou sur les arbres quand un cyclone vous arrive sur la tête. Jésus dit, c'est la même chose pour cette transformation. Si vous désirez de tout votre cœur que Dieu vous transforme, et qu'il vous transforme, vous verrez des changements dans votre vie. Moi, j'étais un gars sympa, mais pas si sympa que ça, on a pu voir, mais j'étais pas complètement super cool avec mes parents. Je ne leur avais jamais demandé pardon pour la souffrance que je leur avais fait. Le pardon, c'était pour les faibles. Pourtant, le jour où Dieu a transformé ma vie, pour la première fois, Dieu m'a donné la force de pardonner. Cela ne venait pas de moi, c'était Dieu qui était à l'œuvre dans ma vie. Vous vous dites peut-être chrétien? Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que votre vie est comme le vent? Produit-elle des fruits visibles et un témoignage vivant? Tout ce qui est humain et de l'humain est humain, dit le texte, tandis que ce qui est de l'esprit est esprit. Je ne peux donc rien faire pour me transformer moi-même. Cette transformation n'est donc que le produit du don de Dieu lui-même. Nicodème est complètement renversé. Il ne peut voir le royaume de Dieu ni entrer de par lui-même. Une transformation est nécessaire. Comme je vous le dis précédemment, je ne souhaite surtout pas vous amener à une religion. Il vous faut rencontrer une personne qui puisse opérer cette transformation. La religion n'a jamais amené personne à Dieu. La religion n'a jamais transformé personne. Vous pouvez aimer tout le monde. Vous pouvez donner votre argent aux pauvres. Vous pouvez vendre votre corps à la science. Cela ne vous amènera jamais à Dieu. La religion n'est rien d'autre que le produit de ce que pensent les hommes sur Dieu. Pour connaître Dieu, il faut être transformé par lui. Cette transformation ne peut venir que de lui. Comment rencontrer Jésus? Demandez-lui pardon dans votre chambre pour le mal que vous avez pu faire. Et lui peut procéder à cette transformation. Il en a le pouvoir, car il est Dieu. Je vous invite à lire la dernière partie de mon passage. Une rencontre qui exige une décision. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Dans ce passage, le Fils de l'homme doit être élevé pour que quiconque puisse avoir la vie éternelle. La transformation opérée par Dieu ne peut intervenir que par le destin de ce Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme n'est rien d'autre que Jésus. Pour obtenir la vie éternelle, la vie avec Dieu et la vie qui vient de Dieu, cette transformation, il nous faut faire quelque chose. Croire en ce Jésus. Placer sa confiance en lui pour qu'il nous donne cette vie nouvelle. Mais en quoi est-ce important? En quoi cela semble être le seul moyen? Jésus doit être élevé et Dieu a donné son Fils. Ces deux idées parallèles forment l'idée centrale de notre passage. Jésus doit être élevé comme un moyen de salut, de délivrance pour l'humanité. Mais comment cela peut-il être possible? L'homme est imprégné du mal. La nécessité d'une transformation de l'homme s'impose donc à lui. Pour cela, Dieu doit implanter un nouveau cœur, implanter une partie de lui dans un homme. Ce n'est rien d'autre qu'une transplantation cardiaque. Mais cette transplantation a un coût. Elle nécessite la mort de quelqu'un. Combien d'enfants meurent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent bénéficier d'un don d'organes et notamment d'un don de cœur? Beaucoup d'enfants, comme des adultes d'ailleurs, ont une maladie cardiaque qui nécessite une greffe, une transplantation. Sans celle-ci, la mort est inéluctable. Or, il manque des donneurs. Et ces donneurs de cœur doivent avoir une caractéristique. Ils doivent être morts. La mort d'une personne permet donc la vie d'une autre. La guérison d'une personne passe donc par la mort d'une autre. C'est fou. Mais c'est comme ça. C'est la même chose pour cette vie nouvelle, cette vie éternelle. Cette transformation ou transplantation cardiaque n'est possible que par la mort d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus, car c'est Jésus qui a un cœur parfait. Il a été envoyé par son Père pour cette mission. Et son but est de sauver, de guérir les malades que nous sommes. Mais la mort de Jésus a déjà eu lieu, elle est passée. Il suffit donc de se l'approprier à nous-mêmes et de croire qu'elle peut être le moyen pour obtenir cette nouvelle vie, cette vie qui n'a plus de fin. Mais comment Dieu a-t-il pu donner son Fils pour nous guérir? Quelle folie lui a pris? Le cœur a ses raisons que la raison ignore, disait Pascal. Et c'est exactement la même chose pour Dieu. Par amour, Dieu est prêt à tout pour nous, même à sacrifier ce qu'il y a de plus cher, son Fils unique. Quel amour immense! Il ne nous manque plus qu'à y croire pour connaître pleinement Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Selon Jésus, la vie éternelle n'est pas pour tout le monde. Et même selon Jésus, deux possibilités s'offrent à l'humanité, c'est-à-dire à chacun de nous. Soit vivre éternellement, sous-entendu avec Dieu, soit périr. Pourtant, la mort est le lot de tous, vous comme moi. Jésus ne peut donc parler de la seule mort terrestre. Il parle d'une autre mort, la mort qui a des conséquences sur la relation avec Dieu. Jésus nous affirme donc que deux vies sont possibles. L'une avec Dieu pour toujours, qui commence sur la terre avec cette transformation et qui donne un sens à toute notre vie. L'une sans Dieu pour toujours, qui nous laisse dans l'embarras le plus total sur cette terre. Jean-Paul Sartre un jour a dit « L'enfer, c'est les vôtres. » D'autres ont écrit « L'enfer est sur la terre. » Ces personnes n'avaient pas beaucoup d'autorité pour dire ces choses, pourtant on les cite encore aujourd'hui. Mais une autre personne, encore bien plus grande et plus puissante, a écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette personne n'est rien d'autre que Jésus. Et si elle dit ce qu'elle prétend être est vrai, alors nous devons croire tout simplement que la mort n'arrête pas tout. Non, même si cela nous arrange. Non, la mort n'arrête rien. La mort n'est que le commencement pour Jésus, le commencement d'une éternité avec Dieu ou sans Dieu. C'est à nous de choisir. Mais Sam, C'est horrible ce que tu es en train de dire. Tu es en train de me faire comprendre que Dieu va condamner des innocents tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Vraiment, si c'est ça le Dieu que tu me montres, franchement, je n'ai vraiment pas envie de le connaître. C'est un Dieu injuste, ingrat, qui n'accepte pas le fait de ne pas être aimé et cru. C'est un Dieu horrible et surtout injuste au plus haut point. Devant cet argument, nous ne pouvons rester insensibles. Et il semblerait que Dieu ait pris un coup dans l'aile. Pourtant, à y réfléchir de plus près, en relisant encore une fois notre texte, j'ai comme l'impression d'une incohérence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. A tant aimé le monde. On est en train de dire quelque chose de complètement fou en disant cela. J'ai l'impression qu'avec Dieu, nous aurions préféré un dictateur qu'une personne qui est démocratique, qui nous aime. Nous préférions ne pas avoir le choix et que Dieu soit obligé de nous envoyer au ciel plutôt que de nous laisser la possibilité d'aller en enfer, dans les ténèbres. Mais en fait, c'est l'inverse. Si Dieu nous oblige, nous n'avons plus de liberté. Et Dieu est un dictateur qui ne nous laisse pas le choix. Nous serions entre ses mains comme une marionnette sans aucune volonté propre puisque lui seul déciderait de notre avenir. Pourtant, il n'en est rien. Dieu, qui est amour dans son essence, ne pouvait concevoir un amour sans liberté. La liberté était à la base de la vie, à la base de l'amour. La liberté est donc une condition sine qua non pour que l'homme ne soit pas un pantin entre ses mains. Le choix que nous avons n'est donc que l'expression la plus belle de l'amour de Dieu. Même si cela a des conséquences et la possibilité de vivre une éternité sans Dieu, Dieu n'a jamais voulu nous forcer. Dieu n'a jamais voulu faire de nous ce qu'il voulait. Non, il a toujours voulu que notre volonté soit tout entière à sa cause. Ainsi, le « on ira tous au paradis » est tout simplement absurde. Absurde car si cela était vrai, ce serait la victoire du despotisme, la victoire de la dictature au profit d'une des valeurs que la société française a élevée la plus haute, à savoir la liberté. Nous n'irons pas tous au paradis selon Jésus. C'est à nous de choisir, nous avons la liberté. Nous avons donc le choix, soit croire en Jésus et être transformé et naître pour une vie nouvelle et éternelle, soit refuser de croire et être condamné à vivre l'éternité sans Dieu, dans les tourments. Dieu ne cache pas les conséquences de nos choix. Si vous aimez vos enfants, votre enfant, vous allez lui dire que certaines choses ne doivent pas être faites, sinon il sera puni et les conséquences seront très désagréables. Son bien est toujours recherché. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Mais pourtant, c'est la seule qui mérite d'être dite. Dans les feux de forêt, en Russie, un enfant vient de perdre ses parents. Vous n'allez pas cacher à cet enfant la mort de ses parents. Cela serait pervers et incompréhensible. Les conséquences sont là. La vie n'a pas de sens concret et réel. Et surtout, notre vie n'a plus la perspective éternelle, mais seulement mortelle. Pourquoi Dieu nous cacherait-il la vérité ? C'est à nous de choisir. Dieu n'est pas un dictateur. Son amour l'oblige à nous laisser libres, même si cela lui arrache le cœur de nous voir nous perdre. La lumière est venue dans le monde, nous dit le texte. Dieu n'est pas resté loin. Non, il est venu sur la terre à notre rencontre, en Jésus-Christ. La lumière qui éclaire le mal de notre monde est donc venue. Pourtant, Jésus nous dit que, verset 19, « Et voici le jugement. » La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. La vérité est là. Nous sommes devant un choix. Soit oser la rencontre et l'éternité avec lui, soit oser la vie insipide où la mort met un terme à tout ce que nous pouvons projeter dans la vie. J'aimerais vous poser la question. Un grand philosophe a un jour écrit une lettre adressée à un ami à l'âge de 16 ans. Il écrivait à propos de Jésus. « Je sais que si je ne le trouve pas, je ne trouverai pas de réponse à ma vie. » Vous savez quel est ce philosophe qui a écrit cela? Il écrivait à propos de Jésus, « Je sais que si je ne le trouve pas, je ne trouverai pas de réponse à ma vie. » Il a écrit ça à l'âge de 16 ans. Ce philosophe a écrit aussi que Dieu est mort. Et aussi, une autre caractéristique, c'est qu'il est mort fou. Et Nietzsche, le plus grand des philosophes athées. Mais Nietzsche croyait qu'il pouvait rencontrer Dieu dans la religion. Parce que son père était pasteur luthérien. Mais sa recherche était perdue d'avance. La rencontre avec Jésus change tout. Mais sommes-nous prêts pour cette rencontre? Sommes-nous prêts à oser la vérité, même si cela doit remettre en question beaucoup de choses dans nos vies, et notamment à cause du fait que nous sommes pourris? Nous sommes devant un choix qui a de grandes conséquences. C'est à nous seuls de choisir. La vie est au bout du chemin que Jésus nous propose d'arpenter au lieu de la mort. Nous n'avons donc plus qu'à le croire. Une rencontre qui donne un sens à notre vie. Une rencontre qui exige une transformation. Et une rencontre qui exige une décision. C'est à nous de choisir.